sais, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est un peu ce que j'ai l'impression de faire. Mais l'important, c'est d'augmenter son niveau de jeu, c'est pas de se reposer sur l'échec. Il fallait diminuer énormément la masse salariale et j'avais le choix entre faire partir toute mon équipe ou partir moi et faire en sorte que l'équipe puisse rester. J'ai préféré cette deuxième solution et comme j'avais bien fait mon travail, j'étais plus indispensable et donc j'ai pu partir sereinement. Mon autre surnom, c'est Pirate parce que j'aime bien mettre des process en place, mais j'aime bien dans 5% des cas ne pas les suivre.
Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Karim Kassam-Chenaï, qui est leader d'un collectif qui s'appelle Overskill et ex-CTO de plusieurs entreprises qu'il a cofondées, notamment Idoo et Gridkey. Merci, Karim, d'avoir accepté l'invitation et d'être ici, parmi nous.
Merci à toi.
On va commencer par, pour ceux qui ont écouté l'épisode feedback, ils savent à peu près par quoi on va commencer. On va commencer par la thématique de l'autovirage et du fait que aujourd'hui tu es dans une phase de ta vie où tous les champs des possibles sont ouverts, tu es en phase de recherche de ton nouveau projet, de ton futur professionnel. Et intéressant d'en parler, intéressé de savoir comment tu l'abordes, comment tu le vis. Et peut-être juste avant, comment ça s'est passé, cette période d'autovirage, entre guillemets, et puis la période que tu vis actuellement.
Carrément. Je commence chez Gridkey fin 2019, avec Mathieu qui me recrute, avec qui j'avais travaillé dans ma période freelance une dizaine d'années auparavant. Un super projet, une plateforme SaaS pour les conseillers en gestion de patrimoine, notamment autour de l'immobilier et plus particulièrement de l'immobilier neuf. Un très bon projet, une très bonne équipe, avec Tristan aussi, un autre associé. On fait deux levées de fonds, une levée de fonds de 2 millions en 2020 et 4 millions en 2022. Et sur les 4 ans, j'ai pas réussi tout de suite à recruter tous les gens que j'aimais, mais il se trouve que par chance, j'ai recruté en 2022-2023 une équipe de folie qui s'est comme ça agrégée les uns autour des autres, une PM vraiment très très forte, des développeurs très forts. Alors ça s'explique aussi parce que je voulais recruter des seniors sur la fin. C'est un truc que j'avais imposé notamment à Mathieu, de recruter que des seniors, mais le fait que ce soit que des gens sympas avec une bonne constitution, c'est un peu un hasard et je remercie vraiment le destin.
Ça fait pas partie du filtre de base de se dire non, ok, en fait il faut que les gens soient sympas au passage.
Ouais, alors on avait quand même un bon filtre,
ouais.
Notamment avec un autre dev, Bastien, qui m'avait bien aidé à filtrer, mais c'est des filtres aussi qu'on avait utilisés avant et qui n'avaient pas aussi bien marché. Et il se trouve là que ça a bien marché et on s'est retrouvé donc avec une très très bonne équipe, très capée, qui avait envie de faire des choses avec vraiment un esprit boy scout et à qui j'ai pu donner vraiment de plus en plus de liberté. Ça a fait un cercle vertueux et c'était vraiment sympathique sur les deux dernières années, 2022-2023.
Toi, ton rôle, c'était CTPO quoi, chez Gridkey?
J'étais CTPO, donc je m'occupais de l'équipe produit. À un moment, il y avait 3 personnes au produit et on a été jusqu'à 25 en tout, donc 12 devs et un platform engineer. Et il y avait aussi en Pologne 10 devs qui travaillait sur la partie scrapping.
D'accord, ok.
Scrapping des données, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de data, et on allait chercher les données chez les promoteurs.
Pourquoi vous avez besoin de beaucoup de data? Bah, si on rentre un peu avant, sur la partie produit, du coup.
Ouais, en fait, dans la plateforme SaaS, donc c'est une suite d'outils, mais c'est complet. On se veut complet. Et dans ce qu'on offre à nos clients, il y a tous les biens immobiliers qui sont sur le marché, notamment tous les biens immobiliers neufs. Et pour récupérer les biens immobiliers neufs, c'est moins structuré que dans l'ancien. Et donc, il faut aller scraper les sites des promoteurs. Alors, certains ont des flux, d'autres ont des API, très rares, mais il y a beaucoup, beaucoup de promoteurs qui donnent des accès au back-office et il faut aller chercher les informations à cet endroit-là, puisqu'ils n'ont pas d'API ni de flux.
Ok.
Voilà, c'est ce que faisait cette équipe en Pologne.
D'aller scraper les données.
Aller chercher les données.
Ok.
2023, grosse crise de l'immobilier que tout le monde connaît. Et nous, notre stratégie, c'était plutôt de dépenser beaucoup pour faire monter le produit, pour ensuite refaire une levée de fonds ou revendre, se faire acheter. Qui est une démarche assez classique, en fait, mais qui n'est pas très robuste quand il y a une crise, même qui n'est pas du tout robuste. Mais nous, notre idée, c'était qu'il n'y avait pas de crise dans l'immobilier. La dernière, c'était en 2008, et donc on ne prévoyait pas de crise. Donc là, bah, manque de chance, on a dû vivre une crise.
Ouais, et vous avez mangé la hausse des taux, quoi, tout simplement.
C'est ça.
Mais du coup, ça s'est ressenti.
La guerre en Ukraine.
Ça s'est ressenti tout de suite sur votre business.
Ça s'est ressenti tout de suite.
Ah ouais, dès que ça a pris un point.
Oui, parce
les promoteurs...
que arrêt des transactions en fait. Et nous, notre modèle. C'est les abonnements, mais c'est aussi un pourcentage sur les transactions.
D'accord, ok. Voilà.
La réflexion, ça a été d'être rentable, de devenir rentable, d'être une boîte entre guillemets normale qui équilibre en fait les rentrées et les sorties.
Est-ce que vous viviez sur des levées de fonds pour accélérer la...
Ce qui était la stratégie assumée. Il y a beaucoup d'autres boîtes. Hein. On garde Mastéos qui ont fait pareil.
Actuellement, toutes les startups, enfin beaucoup de startups scale-up qui vivent sur des levées de fonds, oui, effectivement, c'est un peu la vie. C'est vise à présenter des bilans... qui se rapproche du point de renta, quoi, effectivement, pour relever.
Donc, on a pas mal réfléchi avec mes associés et fallait diminuer énormément la masse salariale. Et j'avais le choix entre faire partir toute mon équipe, que j'adore par ailleurs, ou partir moi et faire en sorte que l'équipe puisse rester un peu plus, par exemple, à mi-temps. Certains sont partis, mais d'autres sont restés à mi-temps. Et donc, j'ai préféré cette deuxième solution. Et comme j'avais bien fait mon travail, j'étais pas indispensable. Donc, c'est là où on rejoint la thématique où je pense que le CTO doit se rendre le moins indispensable possible, en automatisant, en déléguant, etc. J'étais plus indispensable et donc j'ai pu partir sereinement avec l'accord de tout le monde pour partir vers des nouvelles aventures ou pas parce qu'il y a des marques d'intérêt pour GridKey et c'est tout à fait possible que je revienne dans un deuxième épisode.
Ça fait partie du champ des possibles.
Ça fait partie du champ des possibles parce que j'ai une très bonne entente, on va bientôt déjeuner, mais j'ai une très bonne entente avec Tristan et Mathieu, mes associés. Et
tu restes associé ?
Je reste associé, ouais, j'ai gardé mes parts.
Ok, tu
les aides de temps en temps quand il y a des questions.
Ouais, s'il faut filer un coup, enfin voilà, tant que t'es en recherche et qu'il faut filer un coup de main, tu es là, mais ok.
C'est ça.
C'est juste l'activité opérationnelle et rémunérée au titre opérationnel que tu
je fais plus du tout.
Ok. Ok. Et peut-être l'épisode 2, du coup. Et alors, du coup, comment tu vis cette... Ça t'est déjà arrivé d'être dans une période de ta vie pro où, entre guillemets, t'as pas le projet suivant et le projet d'avant, il est déjà fini?
Ça m'est jamais arrivé. En fait, depuis que je suis au CP et même avant, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que j'ai fait mon école. J'ai
depuis la maternelle, monsieur. Depuis la
maternelle. J'ai fait mon école. J'ai trouvé tout de suite en 2000 ce qu'on appelait les SS2I, qu'on appelle les ESN maintenant, recrutés à tour de bras. Donc, il suffisait de passer dans la rue et on était recrutés. Donc, j'ai pu faire Capgemini. Je suis resté un an. J'ai pu faire Sopra. J'ai déménagé. Je suis allé à Aix-en-Provence. J'ai fait Sopra. Mais vraiment sans aucune difficulté. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils prenaient des juniors. Alors, j'avais quand même fait une école et j'avais fait des études supérieures, mais je n'avais pas de formation technique. Et c'est eux qui m'ont formé, en fait. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup parce que ça m'a ouvert des portes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont un peu moins ce rôle de prendre des juniors, de les faire monter en compétences. J'en suis pas sûr, hein. j'ai pas de données certifiées, mais je fais beaucoup de LinkedIn en ce moment. Et on sait que les profils juniors ont beaucoup de mal à trouver. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se lancent en freelance, parce qu'ils trouvent pas.
Du coup, ça doit pas être plus facile de se lancer en freelance junior que...
Alors ça, je sais pas, mais peut-être qu'ils peuvent ajuster le prix, je sais pas. Effectivement, c'est aussi compliqué.
Ça doit pas être plus facile. Ouais.
Mais en tout cas, moi, j'ai bénéficié de cette époque. Et ensuite, au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé, donc j'ai fait freelance.
Tu veux dire que tu as bénéficié de cette époque, c'est un peu par hasard que tu es rentré dans le... que tu es tombé dans le chaudron?
Non, je suis un peu par hasard, oui. C'était peut-être un destin. En fait, quand j'ai été en école de commerce à l'EAP, qui ensuite a été fusionné avec le SCP, j'étais pas vraiment très intéressé par les matières, la finance, le marketing. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il fallait faire le trombinoscope de la promo. Et donc, j'ai commencé à regarder avec Word, et j'ai vu que ça n'allait pas être possible, et j'ai commencé à m'intéresser aux bases de données. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à Visual Basic, et j'ai fait le trombinoscope avec une base de données Access, et un peu de Visual Basic. Mais ensuite, ça m'a donné, ça a orienté tous mes stages. Donc j'ai fait des stages chez Sandoz et chez Bull, orientés tech. Et dans ma dernière année d'école, j'ai fait deux logiciels. Donc j'étais déjà un indie maker, indépendant maker, et j'ai fait deux logiciels, un pour DHL et un pour la Société Générale. Pour DHL, un gestionnaire d'emballage consigné qui a été utilisé pendant une vingtaine d'années. Et pour Société Générale, j'ai pas d'informations sur le destin, mais c'était un logiciel pour fusion acquisition qui permettait de rapprocher des entreprises acheteuses et vendeuses sur trois critères: proximité géographique, chiffre d'affaires et secteur d'activité. Et c'était une base de données qui est alimentée tous les jours par l'ensemble du réseau Société Générale. Et donc,
ça m'a plu,
c'est assez proche du Lego, donc c'est ludique en fait. Ça, c'était en Visual Basic et Access. Et après, j'ai tout fait là-dedans parce que c'était un monde que j'arrivais à maîtriser et assez loin de ce que j'avais fait dans mes études, mais qui me plaisait. Et en fait, comme ça me plaisait, j'arrivais à le faire.
Et tu t'es dit, c'est plutôt ma voie, c'est plutôt vers là où j'ai envie d'aller, quoi.
Je me suis dit, c'est plutôt marrant, en fait. On y reviendra peut-être, mais on a la chance de pas subir, en fait, le travail. Et donc, on est quand même là pour s'amuser. Et en fait, quand on s'amuse, on est meilleur. J'ai eu des périodes... professionnel où je m'amusais moins, J'étais moins bon.
Et donc actuellement, tu es moins en activité, mais est-ce que tu t'amuses moins? Est-ce que tu flippes plus? Est-ce que ça te fait flipper là?
Donc c'est la première fois que je suis dans cette situation, parce que quand je suis passé donc de freelance, ensuite je suis passé, j'ai été appelé par un pote qui voulait monter une boîte. Et à chaque fois aussi, j'ai des périodes de recouvrement. Par exemple, quand j'ai lâché mon boulot chez Sopra, pendant 2 ans, en fait, j'ai pris un congé création d'entreprise. Donc j'avais 2 ans pour me planter, en fait, où je pouvais ensuite revenir dans l'entreprise. Je ne me suis pas planté, ça a marché, ça a pris. Et pareil, quand on a fait Edu avec Jean, pendant 3 ans, en fait, j'ai gardé mon activité de freelance et j'ai monté de plus en plus mon activité sur Edu, jusqu'à, en 2014, être 100% sur cette activité. Et donc, bref, après Edu, quand on a arrêté, j'ai retrouvé une autre boîte. Et quand cette boîte s'est arrêtée au bout d'un an, j'ai eu Gretki. Donc là, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Et j'étais un peu stressé au début. Ça fait un grand vide. Je suis allé voir ma psy pour être sûr... pour être sûr de prendre en fait le problème par le bon bout, et de voilà, on a convenu que en fait c'était pas un problème.
Que quoi n'était pas un problème?
Que c'était pas un problème d'avoir une période en fait de respiration, et de faire un peu autre chose que avoir en permanence la tête dans le guidon. Et du coup, ça me permet d'être plus actif sur LinkedIn, de voir plein de choses que je connaissais pas. Et puis aussi d'ouvrir un peu l'univers des possibles avec ce collectif que j'ai monté. Éventuellement, donc avec du Indie Maker, on est en train de réfléchir à des logiciels qu'on voudrait sortir. Éventuellement, on voudrait faire du freelance aussi en collectif. Donc il y a des plateformes. Ah, ce qui est bien aussi, c'est que maintenant il y a des plateformes pour tout. Donc il y a des plateformes, il y a CoCTO, plateforme pour faire de CTO. En temps partagé, il y a Collective Work, une plateforme pour les collectifs.
Ça fait quoi, Collective Work?
Collective Work, c'est une plateforme où des collectifs s'inscrivent et qui mettent en relation en fait des boîtes qui ont besoin de développement et des collectifs.
D'accord, ok.
Et je découvre un peu tout ça, et en fait c'est hyper réjouissant. Et voilà.
Et tu fais un peu, t'en profites pour faire également de la veille.
Alors j'en profite pour refaire du hands-on.
Ouais.
Donc là j'étais très intéressé par le no-code, parce qu'on parle beaucoup du no-code en ce moment, mais je n'avais jamais regardé. Donc avec un membre du collectif, Antoine, on a passé une journée sur Bubble et on a fait un produit, un outil de gestion de tickets avec Bubble, juste pour voir comment ça marchait. Et on n'a pas trouvé ça top. Mais on a d'autres outils no-code, parce qu'en fait, il faut quand même savoir de quoi on parle quand on parle de no-code. Donc on a d'autres outils à investiguer. Et puis après, il y a plein de technos, moi, que je connais pas. J'ai envie d'investiguer, et là c'est vraiment la période parfaite pour le faire, parce qu'on peut faire des nouveaux produits avec des nouvelles technos. J'adore faire ça.
Et du coup, ça te donne envie de... Voilà, aujourd'hui, tu as statué sur ce que tu vas essayer de retrouver, rechercher, refonder une boîte, aller dans une grosse boîte, repartir dans une petite, faire du CTO, repartir dans un rôle éventuellement plus hands-on, où aujourd'hui tu respires et tu te cherches vraiment.
Alors j'ai bien aimé mes expériences quand même start-up, scale-up en tant que CTO. Ensuite, j'ai une appétence au risque qui est quand même limitée.
Tu...
C'est vrai, c'est bizarre, c'est un peu contradictoire.
Ouais, tout le monde dira, ne t'analysera pas comme ça, je pense, cofondateur,
De boîtes.
Mais par exemple, dans les deux boîtes que j'ai cofondées, j'étais CDI assez rapidement. Et j'aime bien quand même ne pas m'inquiéter vraiment du lendemain. Je trouve que le statut de freelance, même si je l'accepte, je le trouve un peu plus précaire que le CDI. Mais vraiment, c'est un ressenti personnel. Peut-être par rapport à une situation donnée, mais ça peut changer. Il n'empêche que j'essaie de couvrir d'autres. En fait, j'essaie de me prémunir contre le fait que je ne trouve pas de poste de CTO. Et donc, ce collectif nous apporte vachement de choses parce que ça nous permet déjà de faire du freelance, même si on n'a pas commencé à en faire. Mais ça nous permet aussi de voir est-ce qu'on peut travailler sur des logiciels qu'on fabriquerait nous, les vendre. Donc il y a plein. D'ailleurs, dans l'équipe, il y a un designer qui est très avancé là-dedans, qui a des produits, qui génère du profit. Donc comme il le dit, c'est pas le meilleur développeur, c'est pas le meilleur marketeur, et pourtant il arrive à faire des choses. Donc ce qui m'intéresse là, c'est vraiment d'essayer un maximum de choses. Et dans différentes strates de l'activité. Et c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai quand même du temps pour. Je me donne un an pour le faire. Donc, j'ai quand même du temps pour investiguer différentes possibilités.
Tu penses que tu iras jusqu'au bout d'un an pour investiguer ou tu seras plutôt en mode si tu retrouves un nouveau projet et que c'est coup de cœur, t'y vas quoi.
Ah ouais, si je trouve un projet coup de cœur, j'y vais.
Ok, et a priori, ça sera pas dans une grande boîte quoi. Ça sera plutôt petite boîte ou start-up.
Je sais pas, les grandes boîtes, donc j'en ai fait, hein, j'ai fait Capgemini et Sopra, mais ça fait longtemps. Et je sais pas comment ils se sont adaptés aux nouvelles générations, à l'envie des nouvelles générations d'être très indépendants, d'être en télétravail. Je me pose la question, est-ce qu'ils arrivent à se renouveler? Est-ce qu'ils arrivent à s'adapter à cette nouvelle donne? Et j'ai hâte de parler avec eux en fait là-dessus sur ces sujets.
Avec
des grosses boîtes, ouais.
Avec des grosses boîtes. Du coup, sur le télétravail, tu parles de full remote ou tu parles de télétravail hybride?
Alors, je parle pas forcément de full remote parce que il y a des développeurs, et j'en ai connu, qui ne veulent pas du full remote. Moi, je parle plus du fait de se mettre en fait au service et d'être concrètement une boîte qui travaille pour les salariés ou pour les développeurs en fait plus spécialement, parce que moi, enfin, quand je dis développeur, ça c'est plus l'équipe tech en fait. J'ai inclus aussi l'équipe produit et je pense que quand on donne beaucoup de liberté aux équipes tech, en fait, on récolte 10 fois ou 100 fois en fait ce qu'on a donné. Mais ça, il faut le faire concrètement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut prendre le risque, donner beaucoup de liberté. Alors, il y a des développeurs qui veulent être en full remote. Moi, je vois pas pourquoi ils ne seraient pas en full remote. Moi, je l'ai expérimenté chez Gridkey. Ça marche très bien. Il y a une organisation à mettre en place, mais ça marche très bien. Il y en a certains qui ne veulent pas être en full remote. On ne peut pas leur imposer le full remote. Donc, il faut qu'ils puissent venir au bureau 100% ou 60% comme ils veulent. L'idée
chez Gridkey, tu avais une orga où grosso modo chacun faisait ce qu'il voulait en fait.
Alors chez Gridkey, on a démarré Gridkey fin 2019 et juste après on a eu le Covid.
Ouais. Ça te change un ADN. Donc, de boîte.
Ouais, exactement. On s'est pris dans les dents, c'était assez violent. Mais ça nous a permis d'organiser la boîte en full remote. Alors, ce que ça nous a permis, c'est de recruter des gens à l'international. Donc, plutôt que de se concentrer sur un bassin parisien, on a pu recruter toute France, voire monde entier. Et sur les profils, c'est une énorme liberté, en fait. Donc, en faisant un petit effort.
Après, ça met des contraintes. Ça peut mettre des contraintes de time zone,
de bah, en fait, nous, langue, a... de doc.
Ouais, ouais.
De...
Alors, il y a ces contraintes. En fait, nous, on a vu que des avantages parce qu'on a des gens qui travaillent à partir de 5 heures du matin parce qu'ils sont sur une autre time zone. Et donc, quand il y a des problèmes qu'on n'a pas vus pendant la nuit, ils peuvent les résoudre tôt le matin. Et pareil pour tard les soirs. En fait, ça étend effectivement l'étendue horaire de travail, mais ça a aussi des avantages. Il y a toujours une période de recoupement où on peut parler, on fait un délit, on le fait pendant cette période de recoupement. Ça nous a donné énormément de liberté, en fait. Cette contrainte, en fait, du Covid, en fait, nous a ensuite donné beaucoup de liberté. Et j'ai hâte de voir si les grosses boîtes sont prêtes à jouer le jeu.
Et d'une flexibilité adaptée aux envies de chacun.
D'une flexibilité adaptée aux envies de chacun et adaptée aux nouvelles générations qui sont vraiment demandeurs de ça, en fait. Ils sont un peu moins soumis que nous, on l'était. Et moi, le comparatif que je fais, c'est que l'équipe tech, je mets toujours aussi l'équipe produit dedans, ce sont des auteurs et des autrices. Donc, ils écrivent du code de la même manière qu'en littérature, et ça ne viendrait pas à l'idée d'un éditeur d'imposer un mode hybride ou un full télétravail ou un full remote à ses auteurs. Ils peuvent mettre la pression, ça c'est sûr. Ils peuvent être exigeants. Mais sur la manière de travailler, non. Je pense qu'on est passé à une autre époque et il faut s'adapter.
Ok, donc toi, tu vois le futur du travail comme des organisations où il y aura flexibilité.
C'est les techs qui choisissent,
chacun.
En fait.
Ok.
C'est pas le responsable qui choisit. C'est les techs qui s'auto-organisent. D'ailleurs, c'est une des lignes, je crois, de Agile, que l'organisation se fait de manière autonome.
Et alors, du coup, est-ce que ça ne crée pas des équipes à deux vitesses ou des liens à deux vitesses, c'est-à-dire qu'entre ceux qui viennent au bureau et qui partagent les informations informelles, qui font la vie d'une boîte aussi, hein, tu vois à la machine à café, tout ça, entre ceux qui viennent et ceux qui sont pas là.
C'est possible. J'ai pas rencontré le problème parce qu'on était tous en full remote.
Ah, bah
pendant
voilà.
Un moment, j'en ai eu un, juste après le Covid.
Ah ok, toi, leur gars, c'était tout le monde
full remote. C'est le hasard qui fait que tout le monde voulait être en remote. J'avais un développeur, on n'avait pas encore repris des bureaux chez Gridkey. J'avais un développeur qui voulait avoir du contact humain, proche. Et donc, il venait chez moi dans mon appartement une fois par semaine. On allait courir entre midi et deux. Et c'était très sympa. Et moi, j'étais content de faire ça pour lui. Mais ça reste dans mon optique de... on s'auto-organise et on se met vraiment au service des techs.
Ok. Toi, du coup, tu as fondé deux boîtes, deux grandes aventures, quoi, Edu et Gridkey. D'ailleurs, Edu, ça faisait quoi?
Alors, Edu, c'était une plateforme SaaS.
Du SaaS aussi.
Ouais, du UGC, User Generated Content. On a pivoté un peu comme une toupie chez Edu. Je te fais historique rapide. Ouais. C'est assez marrant, on a commencé par les coiffeurs. Donc on voulait que les coiffeurs, plutôt que de proposer des catalogues de stars, voilà, on voulait qu'ils aient des catalogues des têtes de leurs clients et qu'ils puissent aussi faire l'historique avec leurs clients à chaque fois que les clients venaient pour voir ce qui leur plaisait. Donc notre idée, c'était de les équiper d'un appareil photo et d'une tablette qui communiquait sans fil pour pouvoir prendre la photo, la montrer au client tout de suite et se construire une base de données de tête de leurs clients. Ça n'a pas du tout marché. Alors on a eu peut-être une dizaine de clients.
Ah,
par contre,
c'est un peu just.
C'est un peu just. Par contre, l'événementiel a adoré ce concept parce que souvent dans les événements, il y a un photographe, mais en fait, tu vois jamais les photos. Et en plus, nous, on avait un double avantage, c'est que les gens voyaient les photos sur la tablette et on leur envoyait directement. Donc, ils le recevaient par mail et ils pouvaient le partager sur les réseaux sociaux. Et donc, pour des événements qui voulaient résonner en fait, sur les réseaux sociaux, c'était idéal parce que les participants à l'événement partageaient eux-mêmes les photos qui avaient été prises par un professionnel. Ils prenaient aussi des photos eux-mêmes, mais là, on avait une photo professionnelle. Ils étaient invités à partager. Et le troisième avantage, c'est que comme on envoyait pas la photo en pièce jointe, mais on envoyait un lien, on récupérait ensuite tout le tracking que la marque qui organisait l'événement pouvait réutiliser pour voir qui avait partagé, le taux de clic, ce genre de choses.
Donc ça cartonne.
Ça a très bien marché. On a fait des événements de plus en plus gros, avec des infrastructures de plus en plus grandes, jusqu'à arriver à des structures de 30 mètres carrés avec, je ne me souviens plus, mais 72 appareils photo connectés qui prenaient tous une photo en même temps. Et ensuite, on faisait un montage à la Matrix où on pouvait faire une animation qui tournait en fait autour de la personne, un peu comme dans Matrix. Et ça marchait très bien jusqu'aux attentats de Paris en novembre 2015.
Tu parles du Bataclan.
Ouais. C'est ça.
Ouais.
Qui a arrêté énormément d'événements. Et nous, comme on était quand même sur des fins de budget, notre activité événementielle s'est complètement arrêtée. Du jour au lendemain. Alors, il me semble qu'on avait un peu anticipé de pas être complètement dépendant de l'événementiel. On avait commencé l'UGC. Et l'UGC, l'idée, c'était de récupérer les contenus générés par les utilisateurs sur Instagram avec des hashtag Adidas, et construire une base de données d'images pour la marque. Un petit module de levée de droit qui, dans les commentaires, permettait de dire « Bonjour, super votre photo, on aimerait bien l'utiliser sur notre catalogue. Est-ce que vous nous autorisez à l'utiliser ?» Catalogue en ligne ou catalogue papier. Et ensuite, la personne, en général, disait oui, parce qu'elle était assez flattée de que sa photo puisse être utilisée. Et ça constituait un catalogue libre de droit pour la marque. D'ailleurs, c'est une solution qui existe toujours, qui s'appelle maintenant Collegram. Et je suis allé les voir, justement, dans ma période de liberté. Je suis allé les voir et c'est un des produits qu'ils font, qui marche pas trop mal. Je crois pas que ça cartonne, mais ça permet de générer un revenu intéressant.
Donc ça s'est arrêté à cause d'un événement.
Alors, la partie événementielle s'est arrêtée à cause des attentats. L'activité UGC s'est arrêtée pas d'un coup, mais s'est arrêtée petit à petit suite au scandale Cambridge Analytica. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais...
On peut faire un refresh.
On peut faire un refresh. En fait, en 2016, il me semble, il y a eu des gros scandales parce que Facebook partageait trop de données de ses utilisateurs, et Facebook et Instagram. Ce qu'ils ont décidé de faire, parce qu'il y avait beaucoup de boîtes comme nous qui utilisaient les API de Facebook et d'Instagram pour récupérer de la donnée pour faire des produits. En fait, il y avait tout un écosystème
qui vivait grâce à ça.
Mais ça a généré des scandales. Il y a des chercheurs qui ont démontré que ça attaquait la vie privée. Et donc Facebook et Instagram ont décidé, d'une part, de diminuer le nombre d'API qui étaient disponibles. Donc il y a plein d'API qui ont disparu petit à petit. Et aussi de réduire de 1 à 10 la taille des tuyaux. Donc là où tu pouvais taper... tu pouvais faire 200 requêtes toutes les secondes, tu pouvais en faire plus que 20. Ça changeait complètement en fait ce qu'on pouvait faire en fait. Parce que nous, on allait chercher des hashtags populaires.
Donc ça, ça vous a tué, quoi.
Ouais, ça nous a pas tué parce qu'on a... ça nous a fortement blessé.
Fait pivoter.
Et puis, on était un peu, on était un peu épuisés, en fait. Et donc, la boîte a été revendue. Et elle a ensuite été reprise par Collegram, donc qui en a fait un nouveau produit qui marche pas trop mal.
On peut dire bien.
On peut dire bien, parce que ouais. c'est un de leurs deux produits principaux. Ouais.
Ok. Bah, donc du coup, tu montes deux boîtes qui ont sur des belles tranches de vie, qui scalent, qui sont au point de renta, qui sont pleines de succès, et puis des événements exogènes blessent un peu le truc là, pour Gridkey, c'est la remontée des taux, guerre en Ukraine et l'immobilier qui trinque. Est-ce que tu peux nous, enfin voilà, est-ce que pour toi, si on fait une petite synthèse, un petit rex carrière sur la thématique succès Gadin,
le succès j'en ai eu beaucoup parce que j'ai vendu déjà des sorties d'école de produits. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans des ESN. Ensuite, j'ai pris le risque de devenir freelance. J'ai été freelance quand même pendant 6 ans. C'est un gros succès. Edu a été rentable pendant 6 ans aussi, 6-7 ans, avec des chiffres d'affaires de 1,3 million. Ça, on était très contents. Gros succès. Gridkey, deux levées de fonds, 2 millions et 4 millions.
Et d'où vous aviez levé ou vous aviez construit?
On avait levé 300 000 euros. Donc rien.
Oh, ok, ouais.
Et puis on avait fait un peu de BPI. Voilà.
Ok, donc vous aviez construit un modèle rentable à partir de. À partir de. Entre guillemets, peu, quoi. Par rapport à d'autres époques.
Ouais. Ouais, et puis on a survécu à des obstacles. Et pareil, chez Gridkey, la boîte marche toujours. C'est-à-dire que c'est aussi un succès, de même s'il y a un obstacle et même si on doit faire des sacrifices, de continuer à faire tourner la boîte. Et donc ces levées de fonds et le fait que la boîte, même si je ne suis plus dedans opérationnellement, le fait que la boîte continue, c'est aussi
un succès.
Ouais.
Tu mets les levées de fonds Gridkey comme un succès, parce que du coup, c'est les montants qui te les fait mettre dans la catégorie succès. C'est
2 millions et 4 millions, moi, j'avais jamais fait ça. Donc, c'est des bons montants qui nous ont permis de suivre la stratégie qui a été décidée, c'est-à-dire de faire beaucoup de développement et de cramer beaucoup d'argent pour ensuite recommencer. C'est des beaux succès qui s'appuyaient sur des succès commerciaux, sur des clients qui nous comparaient à la concurrence. On a un concurrent principal qui s'appelle Otari. Et nous, on est plutôt challenger. On voit, alors ils sont très très forts sur l'UX, un peu meilleur que nous, mais on les a grignotés sur toutes les fonctionnalités, et on a aussi des fonctionnalités à nous propres qu'ils n'ont pas du tout, surtout des fonctionnalités très technico-fonctionnelles. Sur le métier, on est vraiment allé très loin. Donc ces levées de fonds se sont appuyées sur le produit, sur une analyse du produit vraiment objective. Et donc, c'est des francs succès pour moi.
Ok. Est-ce qu'il y a des gadins, des erreurs, des apprentissages?
Presque plus. Des gadins, par exemple, moi, le management, je l'ai découvert. Alors, quand j'étais freelance, j'avais des stagiaires. Mais c'était à chaque fois un ou deux en même temps. Et puis je leur disais ce qu'il fallait faire, ils exécutaient, quoi. Ils étaient là, ils étaient très sympas, etc. Mais c'était des stagiaires et c'est pas pareil que des profils juniors ou que des profils seniors. Donc moi, le management, je l'ai découvert chez Edu. Donc j'ai fait plein d'erreurs de management. Il y a déjà plein d'erreurs de recrutement, plein d'erreurs de management, des gens avec qui je ne savais pas comment me comporter.
Une erreur de management, ça commence par le recrutement.
Ça commence par
rater un recrutement.
Ouais. Alors ce que j'ai mis en place ensuite et qui marchait bien pour le coup, et que ça que j'ai toujours gardé, c'est une journée découverte pour les personnes recrutées, payées bien sûr, mais une journée en presta. Donc tu recrutes un dev, bah, tu lui fais travailler sur des vraies problématiques avec la vraie équipe. Dans l'équipe, en fait, tu le fais travailler en presta, payer son TJM. Il travaille vraiment dans l'équipe et il se confronte vraiment au problème. Donc déjà, il faut qu'il monte son environnement. Donc là, tu peux observer comment il monte son environnement, les questions qu'il pose, est-ce qu'il pose beaucoup de questions ou pas, etc. Et ça, et puis c'est intéressant aussi pour le développeur de rencontrer les autres membres de l'équipe et de se faire une idée sur où il met les pieds, et pas découvrir.
En une journée, tu arrives à onboarder quelqu'un et lui faire faire des trucs. J'imagine qu'il y a une organisation un peu précise de.
Ouais, je passais beaucoup de temps avec eux. Souvent, on faisait un mix matin, après-midi. Il y a un développeur aussi, souvent le plus senior, qui passe du temps avec lui. Évidemment, 2 jours, 3 jours, ce serait mieux. Mais après, il y a des limites qui font que. C'est pas toujours possible.
Y a des gens
moi, par exemple, si quelqu'un veut me recruter en CTO, moi, je suis carrément pour passer une semaine, en fait. Une semaine en presta. Et comme ça, les gens peuvent voir...
Est-ce que ça s'apparente pas à une période d'essai, en fait, ça ?
Ouais, c'est vrai. Mais...
Ben, c'est... dans la manière de le dire, il y a un cut feeling à 24 heures ou à une semaine, enfin... Tu sais que c'est il y a un vrai cut feeling tôt quoi.
Et puis souvent c'est un peu déchirant d'arrêter quelqu'un dans une période d'essai en fait.
C'est très désagréable.
C'est très désagréable pour lui,
tout le monde.
Surtout si tu l'as débauché.
C'est très désagréable dans tous les cas.
Ça aussi ça nous est déjà arrivé. Je préfère éviter. Après parfois t'es obligé hein. Mais je préfère éviter. Et puis à contrario. Il y a des gens qui se révèlent après la période d'essai. Il n'y a pas de... De toute façon, je pense que tu le sais, il n'y a pas de...
C'est une science molle.
Voilà, c'est une science molle. C'est impossible d'être 100% sûr.
Et alors, du coup, est-ce que tu as des candidats qui tu disais, bon, bah moi, dans notre process, tu viens une journée chez nous, bon, tu seras payé tant et il y en a qui te disaient non ou ça t'arrivait de dire non mais pff, ça va c'est un peu long votre truc ou...
C'est arrivé mais c'était très rare.
Ouais. Dans l'ensemble c'était plutôt bien accueilli.
Dans l'ensemble c'était bien accueilli, ils étaient plutôt contents de faire ça.
De de l'originalité de la proposition, c'est assez original. Et puis tu sais où tu mets les pieds à la fin quoi.
Exactement, ouais.
Ok. Et du coup tu... T'as observé sur... C'est quand que tu mets ça en place ?
Ça, c'est chez Edu. Je crois que c'est pas une idée de moi, c'est une idée des développeurs.
C'est assez tôt que tu le mets en place ?
C'est assez tôt que je le mets en place, ouais.
Et tu poursuis chez GridKey, ça ?
Carrément, ouais. Je l'ai fait chez GridKey.
Ok, t'as pas pu observer statistiquement un taux d'échec-succès différent entre l'avant et l'après ?
Plus ça va, plus mon taux de succès augmente.
Ouais.
Mais c'est parce que aussi je fais pas les recrutements tout seul. Je fais les recrutements avec des devs qui font la partie test technique, qui sont pas vraiment des tests techniques en fait. C'est des prétextes pour discuter. Et même avec même parfois avec une troisième personne. Et si on est tous les trois alignés, on y va. S'il y en a un qui dit non, on n'y va pas. J'ai eu très peur d'ailleurs une fois avec un dev qui me suit depuis longtemps, Evgeny, que je voulais absolument recruter. J'avais très peur que les autres me disent non, mais finalement ils m'ont dit oui. Mais mais on a parfois ça marche pas, tout simplement parce que les gens aussi changent au cours du temps. Donc il y a des choses qui sont de toute façon pas détectables.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres bon là c'était une erreur slash solution. Il y a d'autres erreurs, Gadin, que tu...
Les erreurs chez Edu, des erreurs stratégiques, parce qu'en fait l'idée elle était pas mal, mais c'est pas non plus l'idée du siècle. Et déjà, donc déjà ça c'est un point.
Tu parles de quoi, de l'idée du l'idée produit de...
Ouais, le produit, ouais, le produit était un peu, je trouve un peu faible à l'époque, je pensais pas. Évidemment, je trouve ça super. Mais quand je me retourne sur cette époque, je me dis le produit n'était pas non plus excellent. Et il vaut mieux aller dans des...
Tu veux dire le produit ou le marché pour le produit ?
Non, le produit vraiment. D'accord. Premièrement, et puis en plus, on était dépendant de l'événementiel et après dépendant d'Instagram. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied d'être dépendant d'acteurs en fait qui font ce qu'ils veulent.
Il n'y avait pas d'autres acteurs sur lesquels pouvaient... Ouais, en fait, c'était vraiment Instagram dépendant.
Si, il y avait Twitter, mais pour les photos, c'est Instagram, en fait.
Ok.
Et donc, faut essayer de ne pas être indépendant. Après, quand j'étais chez Smartab, donc c'est ce que j'ai fait pendant un an entre Edu et Gridkey, c'était beaucoup plus puissant stratégiquement. Ça n'a pas marché parce que c'était trop gros en fait pour les épaules des équipes qui étaient en place, mais c'était une vraiment très très bonne idée. Et après chez Gridkey, là j'avais vraiment fait mes calculs, l'idée est excellente, je pense toujours qu'elle est excellente. En plus on a été vraiment profondément dans le métier, donc il y a vraiment tous les outils qui sont nécessaires. Et bon là, alors chez Edu... dans les gadins aussi, ça a vraiment été un deuil la fin. C'était très dur psychologiquement d'accepter d'arrêter. Parce qu'on s'est vraiment marré. Il y a des années, on s'est vraiment marré, on s'est vraiment amusé. Et ça a été très dur de tourner la page. J'ai mis plus d'un an à tourner la page.
T'as pas pris de respiration entre...
Non, j'ai pas pris de respiration parce qu'il y a, Godefroy donc, qui était le directeur de Smartab, qui me faisait des appels du pied depuis un moment, en fait. Moi, j'avais travaillé avec lui à l'époque de Luxe Résidence et j'avais beaucoup apprécié de travailler avec lui. Donc,
t'as enchaîné alors que enchaîné, dans ouais. La tête, c'était dur, quoi.
Ouais, c'était très dur. Ouais. C'était très dur parce que j'ai quitté une boîte que j'avais, ma première boîte, c'est mon bébé. C'était un bébé qu'on avait fait avec nos associés. C'est presque ça, hein.
Tu parles de deuil, c'est un mot fort.
C'est un déchirement, c'est un deuil. Ouais. Et j'ai mis un an à tourner la page. Je pense que maintenant, j'ai un peu plus l'habitude.
Tu le vis pas pareil, là, en fait.
Non, je le vis pas pareil. J'ai pris du recul, en fait.
Ouais. Et puis parce que la boîte continue, en fait. Gridkey, ça continue. Donc,
non seulement la boîte continue, mais tous les devs avec qui j'ai travaillé, on monte le collectif. Donc ils sont à mi-temps en gros chez Gridkey et l'autre mi-temps, on travaille sur un collectif. Donc en fait, ça ne s'est pas arrêté.
Ok, bon, ça aide.
ça aide pas mal. Mais voilà, les gadins, ça a été de mal analyser ces trucs-là. Après, franchement, chez Gridkey, il n'y a pas vraiment de gadins. Après, il y a beaucoup de devs qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, des gros trucs qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire. Mais c'est pas vraiment des gadins, c'est des erreurs qu'on fera moins.
On développe une feature, mais le ROI, on l'a pas trop ouais, calculé. Quoi.
Exactement. C'est exactement ça. Donc le ROI, il faut vraiment le calculer, il faut être pointilleux, il faut bien choisir. Mais ça, c'est pas des gadins, c'est des erreurs en fait, que tout le monde fait. Et à la limite, c'est assez facile de faire attention. L'équipe tech a une responsabilité, c'est de prendre plus de pouvoir. Disons que les équipes business sont très convaincantes pour faire passer des choses. Et de ce que j'ai vu, hein, mais les équipes tech se placent souvent comme exécutants où ils ralouillent un peu, mais en fait, ils sont contents de montrer qu'ils arrivent à faire. Mais non, en fait, les équipes tech, elles doivent se mettre au niveau des équipes business, et c'est un dialogue d'égal à égal.
C'est quelque chose que toi, t'as insufflé dans les équipes, ou c'est justement quelque chose que qui n'était pas assez insufflé?
C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, parce que j'aime bien être en deuxième ligne, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que une équipe tech solidaire doit pas être en deuxième ligne, doit être en première ligne, doit s'intéresser à tout, doit s'intéresser au business. Tu vois, chez Edu par exemple, je pense que je ne me suis pas assez intéressé au produit. Chez Gretki, je ne me suis pas assez intéressé au business. À mon avis, je n'aurais pas eu gain de cause, je n'aurais pas réussi à dire, en fait, tout l'argent qu'on a levé, on le garde le plus longtemps possible et on essaie dès maintenant d'être rentable. Ce qui aurait été plus ma stratégie, moi, naturellement.
Avec ton aversion au risque, un peu plus limitée, quoi.
Je ne pense pas que j'aurais eu être gain de cause. Le match, mais je n'aurais pas remporté le match. Au moins, j'aurais exprimé cet avis à un moment donné. Et en fait, j'ai découvert assez tard qu'il y avait pas mal d'investisseurs qui étaient sur cette même ligne, qu'on aurait pu s'associer plutôt qu'à la fin, un peu en catastrophe, faire les choses. Bref. Donc je pense que l'équipe tech doit se mettre au même niveau et doit s'intéresser aussi au business. Donc ça, c'est une erreur que je ne ferai pas la prochaine fois. Je m'intéresserai au produit, leçon de Edu. Je m'intéresserai énormément au business, leçon de Gretki.
Ok, et en disant, voilà, là...
En fait, l'équipe tech doit s'intéresser à tout. Ils doivent être partout, RH, marketing.
Enfin, dans une boîte qui fait un produit SaaS, pour le coup, ouais. Effectivement.
Ouais. En fait, les techs, c'est des gens formés, c'est des bac plus 5, c'est des ingénieurs. Donc, ils ont toutes les capacités de s'investir dans toutes les parties de la boîte. Et ça, ils n'en ont pas toujours conscience. Et c'est important de leur dire.
Et alors, du coup, là, tu donnes quelques finalement, c'est un peu un rex de. C'est un post-mortem de tes différentes expériences de fondateur, cofondateur. Si tu t'adresses là à des futurs start-upers ou des gens qui ont envie d'entreprendre, il y a d'autres conseils que tu leur donnes?
Ouais, carrément, les start-upers, souvent, ils veulent un CTO ou un dev. Moi, je pense qu'il ne faut pas, surtout avec les plateformes aujourd'hui et comment ça s'est bien organisé, je pense qu'il faut commencer par travailler avec un collectif. Parce qu'un collectif, c'est plusieurs sensibilités, plusieurs personnes et c'est une intelligence collective. Tu ne peux pas recruter un mouton à cinq pattes. Par contre, dans un collectif, tu as le mouton à cinq pattes. Et ensuite, l'intensité de travail du collectif, elle se décide entre le start-upper et le collectif. Si, suivant le budget, le start-upper peut dire, ben, en fait, vous travaillez pour 5 jours par semaine, et si vous êtes 10, vous ne travaillez pas 50 jours par semaine. Et donc, le collectif va être suffisamment intelligent pour faire travailler les bonnes personnes au bon moment, pour faire travailler le designer au bon moment.
C'est ça l'ambition de... Enfin, l'une des ambitions ou des réflexions du collectif que tu...
Overskill, c'est ça. C'est s'adresser soit à du early stage, soit sur des problématiques très très compliquées, parce que comme on est des seniors et qu'on aime bien attaquer des problématiques complexes, on voudrait pouvoir faire... En tout cas, on se propose sur les deux thématiques.
Ok, donc toi, tu arrives, un fondateur, un start-upper arrive, il évoque la problématique globale et tu lui dis, ok.
On lui fait son planning, on lui met les gens au bon moment, au bon endroit, avec la bonne compétence. Et c'est, okay. comme si, en fait, il s'adressait à un super tech qui avait toutes les compétences, mais en fait, c'est juste une façade, mais derrière, c'est différentes personnes qui travaillent. Et en plus, comme on a une super entente, souvent on dit qu'on est télépathe parce qu'on perd très peu de temps en communication. On a mis en place des automatismes qui fait qu'on travaille très bien ensemble, on s'entend. En fait, parce que quand tu travailles avec plusieurs personnes, tu gaspilles un peu de temps en communication. Mais nous, on a vraiment réduit ce temps. Donc il y a tous les avantages, en fait.
Et alors du coup, souvent en start-up... il y a une volonté d'avoir toutes les compétences en interne, ce qui est des fois un peu étonnante, parce que justement ça fait quand même beaucoup de coûts fixes et sur des boîtes qui n'ont pas forcément beaucoup de rentrée d'argent. C'est pas une difficulté sur ce marché ? Enfin, sur,
je pense qu'ils ont raison, mais c'est souvent c'est au moment start-up, c'est trop tôt en fait. C'est pas des questions à se poser à ce moment-là.
Ok. Donc, d'autres conseils de ton Rex ?
Bah, donc ça c'est collectif. Après, il y a plusieurs plateformes. La plateforme sur laquelle on est, nous, c'est Collective Work. Après, il y a un moment où la boîte veut peut-être pouvoir avoir un CTO. Et là encore, il faut essayer les CTO. Donc, il y a une autre plateforme qui s'appelle CoCTO, dans laquelle je suis aussi. Donc, il y en a plein. Je ne sais pas combien il y a de CTO, mais ça permet d'avoir des CTO à temps partiel et des CTO qui répondent vraiment à la problématique de la boîte au moment où elle en est. Et ça permet d'acheter du temps CTO un jour, deux jours, trois jours en fonction des problématiques. Ensuite, éventuellement, s'il y a un bon fit, mais c'est aussi pareil pour les collectifs, des gens peuvent s'intégrer à la boîte, il n'y a pas de problème. Il y a ça, et puis il y a plus un conseil pour les investisseurs dans les boîtes. Je les vois assez peu le faire, en fait. Souvent, ils s'adressent au CEO. Mais le CEO, il leur dit ce qu'eux, ils veulent entendre. En fait, les CEO, c'est des communicants. Les CTO, c'est rarement des communicants. Et donc, c'est vachement bien les non-communicants, parce que vous avez vraiment la vraie information, en fait. Et donc, moi, ce que j'invite les investisseurs à faire, c'est de parler au CEO, bien sûr, mais aussi de parler au CTO, pour avoir vraiment des informations
quand t'as levé des fonds, secrètes. Quand tu as levé des fonds chez Gridkey, toi, t'as pas, les investisseurs, ils ne sont pas venus te voir ?
Non, j'étais très content.
Qui Mathieu, viennent pas te voir.
Ouais, parce que j'avais du boulot, quoi. Mais puis Mathieu, il est vraiment excellent là-dedans. Donc il faisait le job. Et même moi, il me posait assez peu de questions. Je trouvais ça assez extraordinaire. Mais je pense que... Donc lui, il a bien joué sa partie. Mais je pense que les investisseurs ont, avec le CTO, en fait, un œil de Moscou à l'intérieur. En fait.
Un canal d'information différent, quoi.
Ouais.
Ok. Quelques grands apprentissages en dehors de Rex Startup, management, autres
Des
leçons de vie.
Ouais, alors c'est un peu en mode Yoda, mais de ton ego, tu te déferas. Non, c'est un peu des leçons aussi de comment se comporter dans la vie, en fait, pas qu'en tant que CTO. Se défaire de son ego, ça permet aux gens de discuter de manière beaucoup plus ouverte dans une équipe. Être concrètement authentique, donc parler aussi bien des échecs et des réussites, célébrer les réussites, ça faut le faire. Faut pas parler que des échecs, mais les échecs, ça apporte vachement d'informations. Et on n'est jamais condamné à l'échec, ça permet de faire d'autres choses.
Quand tu dis il faut se défaire de son ego, tu parles de quoi, pourquoi, dans quel but ?
Ben, par exemple, moi je sais que je suis pas le meilleur techos de la boîte, mais il y a des moments où j'avais peur de cette situation-là, parce que le roi est nu, tu as peur de montrer tes failles en fait. Et c'est une illusion, parce que de toute façon, déjà, les gens, ils le voient. Et en fait, c'est pas le rôle du CTO d'être le meilleur, même au tout début. Le rôle du CTO, c'est déjà de recruter des gens qui sont meilleurs que lui. C'est beaucoup plus intéressant. Et ensuite, c'est les gens que tu as recrutés qui te disent ce qu'il faut faire. Il y a un dialogue qui se fait, mais tu peux apporter un peu d'expérience. Mais sur 20 problématiques qu'on a eues chez Gridkey, 18 fois, c'était les développeurs qui avaient une meilleure idée que la mienne. Et donc, si tu es dans le contrôle et si tu es en train de te dire « faut que je représente la partie technique », tu ne peux pas arriver à faire ça. tu peux pas les laisser décider, même quand toi t'es pas d'accord, les laisser décider. Et donc c'est vraiment
Oui, l'ego est l'ennemi de la bonne décision, quoi.
Ouais, je pense. Et c'est vraiment en étant humble, en se mettant un niveau en dessous des développeurs, que en fait, tu arrives à vraiment faire en sorte que l'équipe prenne les bonnes décisions et que le produit aille dans le bon sens. Et c'est ça, en fait, qu'on attend d'un CTO, finalement. C'est pas qu'il soit le meilleur tech. Voilà, donc montrer ses failles, c'est un peu dans le même esprit, mais les nouvelles générations sont, je trouve, vachement là-dedans, dans la simplicité. Dans le fait de dire, ben, je suis pas parfait, je sais faire ça, ça je sais pas le faire, j'ai envie d'apprendre, etc. Donc ça, c'est les nouvelles générations qui nous disent, nous, aux anciens, comment se comporter. Et il faut vachement voir comment ils agissent et les écouter, ouais. Les apprentissages, s'appuyer sur l'intelligence collective, ça c'est moi c'est ce que j'ai fait chez Gridkey, ça a super bien marché, ça détend tout le monde, les gens sont force de proposition, ils osent des choses, alors que si tu parles en premier, ils vont dire ah ouais, le CTO il a dit ça, même s'ils n'étaient pas d'accord avant.
Non, s'appuyer sur l'intelligence collective, ouais, ça se matérialise comme dans quoi, dans quel donc effectivement en réunion, tu parles en dernier, par exemple.
Par exemple.
C'est l'équipe qui participe et décide à un recrutement.
Exactement. Tu penses à quoi d'autre ? On fait des tours de table. On fait beaucoup d'ateliers. Beaucoup d'ateliers où un développeur expose le problème et on réfléchit ensemble à la solution. Et en fait, les gens adorent en plus faire ça. C'est-à-dire que non seulement en plus en télétravail ils passent un bon moment, ils ont l'impression d'être proches les uns des autres, ils sont pas là sur leur ordinateur, parce qu'il y a ça aussi souvent en télétravail, on a tendance à être vraiment dans le boulot et à négliger un peu la machine à café. Donc là ça refait un peu de la machine à café, on discute d'une manière plus informelle d'un problème, chacun donne son idée et chacun apporte sa sensibilité ou des expériences sont vécues. Qui dit ben non, ça n'a pas marché, moi je vous raconte, voilà, on a fait ça comme ça et ça n'a pas marché. Intelligence collective, donc ça, ben voilà, faire participer énormément les devs, être sûr que c'est les techs qui trouvent les solutions, surtout quand tu as recruté des mecs qui étaient des garçons et des filles qui sont meilleurs que toi. Ce que j'ai observé aussi, mais c'est aussi classique, c'est que j'imposais une décision. Donc, je préfère avoir une solution qui me paraissait moins bonne, mais qui a été décidée par un plus grand nombre de techs, parce que je savais que en prenant cette décision, j'avais plus d'adhésion qu'en prenant une décision qui me paraissait moins meilleure. Et en plus, deuxième acte, c'est souvent en fait ma décision, mon choix n'était pas forcément le meilleur. Ça, je le voyais après.
T'as dit jamais, je n'impose une, enfin jamais, ça t'est, enfin jamais, c'est vraiment le bon mot, quoi. Ou c'est enfin c'est un dogme, quoi.
Non, c'est pas jamais, mais très rare, très rare.
Ouais, ok.
95% des cas, en fait, c'était le choix de la majorité, la démocratie. Il y a eu une ou deux fois où on perdait trop de temps sur un truc et j'ai dit non, mais en fait, non. Mais c'est resté vraiment très, très anecdotique et très, très rare.
Ok. Bon, bah, ça fait pas mal.
Ouais. Après, il y a un concept que j'ai connu justement récemment, en levant un peu la tête de mon guidon, c'est le disagree and commit. Donc, il y a peut-être des gens qui connaissent. Et c'est en fait le fait de formaliser le désaccord entre les participants. Donc tu as une réunion, différents avis s'échangent, et puis y a un avis majoritaire qui se dessine, mais il y en a un ou deux qui ne sont vraiment pas d'accord. Et bien on prend 10 minutes pour que ceux qui ne sont pas d'accord puissent exprimer leur désaccord, dire pourquoi ils pensent qu'on se plante, et acceptent la décision majoritaire. Et ça, je trouve ça vachement bien. C'est pas quelque chose que j'ai mis en place, mais c'est quelque chose que je mettrai en place dans ma prochaine aventure, parce que je trouve ça hyper intéressant, le fait de formaliser et de se protéger de l'inaction, parce que ceux qui sont pas contents, ils vont être moins dans l'action. Le fait de le formaliser, je pense, ça permet de se protéger de
l'inaction. Tu veux dire qu'à l'issue de la réunion, on formalise qu'on n'a pas pris ta décision, mais...
Exactement, on peut l'écrire. On peut écrire, ben, un tel et un tel. Laurent, il n'est pas d'accord, mais il est d'accord pour prendre le choix majoritaire. Il accepte le choix majoritaire, il n'était pas d'accord, mais il
d'accord,
accepte.
D'accord, mais tu formalises qu'il y a quelqu'un qui pensait autrement. Ouais, et que c'est...
Tout à fait.
Le fait de l'écrire, c'est prendre en compte la pensée de l'autre, quoi, en gros.
Alors, ça prend en compte la pensée de l'autre, mais aussi, on écrit aussi qu'il accepte la décision majoritaire.
Et s'il accepte pas, on fait quoi ?
Non, il est obligé. On est dans une team, donc il est obligé de. Effectivement, s'il accepte pas, c'est un autre problème. Mais le fait déjà de le formaliser, ça permet de soulever un désaccord. Non, il est obligé d'accepter.
Bon, donc du coup, tu préfères.
Ça, c'est un truc. J'ai trop hâte de le mettre en place.
Par contre, tu préfères disagree and commit and action que pas d'action, quoi. L'inaction a un coût.
Que de ne pas le formaliser, que ça reste un peu comme ça, en non-dit, en fait. J'aime bien le fait de le dire, en fait.
Ok. Intéressant. Bon, bah écoute, ça fait pas mal. Ça, je pense que ça fait des beaux rex, c'est pas mal de sources d'inspiration pour managers ou start-upers et autres. On arrive tout doucement fin de podcast. Je vais t'amener sur quelques questions que tu connais probablement. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms ?
Alors, j'ai trois surnoms. Alors, mon premier surnom, c'est Overkill, parce que souvent dans mon équipe, je leur pose une problématique, ils reviennent avec une solution, mais... qui fait beaucoup trop de choses par rapport à la problématique. Donc souvent, je leur disais « Non, mais ça, c'est overkill et tout. » Alors, ils se vexaient au début. Et en fait, ça m'est resté comme surnom. Et souvent, ils m'appellent Overkill.
Le nom de ton collectif Overskill, c'est un clin d'œil ?
C'est un petit jeu de mots avec Overkill. Overkill, ça nous paraissait trop négatif.
Overskill, c'est...
On a mis un S.
Ok.
Ensuite, mon autre surnom, c'est Pirate, parce que j'aime bien mettre des process en place. Mais j'aime bien dans 5% des cas ne pas les suivre. Je trouve que suivre les process dans 100% des cas, en fait, on perd un peu du temps. Et donc, parfois, je faisais pas relire mes commits. Je les mergeais directement. Où je faisais des actions en BDD qu'on aurait dû faire avec des migrations en code. Et donc, souvent, il m'appelait Karim le pirate parce que je piratais un peu ce qu'on avait mis longuement en place pour que tout soit nickel. Après, j'ai un surnom, mais celui-là, je me le suis attribué à la boxe. C'est la rage. Et voilà, c'est un peu un surnom que je me suis attribué. C'est plus une volonté, c'est plus pour être dans la rage, parce qu'à la boxe, il faut être un peu dans la rage. Et souvent, j'avais un peu ce défaut de ne pas être assez rageux sur le ring. Donc, je me suis choisi ce nom. Ouais, je fais des. Alors, c'est de la boxe loisir.
Ouais.
On n'essaye pas de mettre l'autre KO. Mais c'est quand même engagé. Et j'ai déjà fait deux combats devant un public, etc. À Apollo Sporting Club.
Donc, ça, c'est à la touche, quoi, que ça compte.
C'est à la touche. Ok. Exactement.
Bon, bah, ça fait pas mal de surnoms également. Est-ce ouais. Est-ce que tu as un ou plusieurs proverbes, du coup ?
Alors, j'ai trois proverbes que je trouve intéressants. Le premier, je ne vais pas citer son auteur, mais il est connu, c'est « ne pas optimiser quelque chose qu'il ne faut pas faire ». Ça, c'est vraiment un défaut qu'on a, nous, les techs, c'est d'améliorer quelque chose, mais en fait, le truc, en fait, faut le jeter. Et c'est là aussi où il faut se mettre d'égal à égal avec le business.
Faut en pas disant des... ça ne sera pas utilisé. Ouais, voilà. C'est, on jette de l'argent par les fenêtres tout de suite.
Ou garder des process, en fait, qu'il faut jeter, etc. faut toujours être hyper critique là-dessus. Donc, c'est Elon Musk. Je suis pas fanat d'Elon Musk, mais je trouve que sur cette ce petit proverbe, cette petite citation, vraiment, il faudrait l'encadrer. et c'est plus large que l'équipe tech, en fait. C'est pour toute la boîte, en fait.
Ouais.
Ensuite, un qui me plaît beaucoup, c'est Winston Churchill. C'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est un peu ce que j'ai l'impression de faire. Et moi, je perds pas mon enthousiasme.
Et il y a des succès entre les échecs aussi.
J'ai plein de réussites. Et j'augmente mon niveau de jeu, en fait. Mais en vivant plein d'échecs quand même. Mais l'important, c'est d'augmenter son niveau de jeu. C'est pas de se reposer sur l'échec. Si vous jouez au tennis, vous perdez à chaque fois, mais que vous êtes à chaque fois meilleur, c'est bon, grave. Vous êtes sur la voilà.
Ok.
Vous êtes sur la bonne voie. Et après, c'est René Char qui dit impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et je trouve ça très vrai. En fait, il faut tenter plein de choses différentes, tenter sa chance. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui tombent. La vie marche comme ça. Si vous essayez de faire un double 6, par exemple, au dé, plus vous allez tirer les dés vite, plus vous allez en faire. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et je trouve ça très juste. Et c'est un bon guide pour avancer et pour faire des choses, quoi.
Ok. Eh ben, ça fait quelques bonnes punchlines aussi. Est-ce que tu donnes un titre à cet épisode ?
Titre à cet épisode, alors j'avais pensé à un titre qui était plus autour de la chance et tirer parti de la chance. Oh là là, c'est difficile.
Tu veux que je te propose moi je reçois parti sur un truc autour de la respiration, en pleine inspiration ou une belle respiration ou alors sur un titre autour du Rex, quelque chose parce que j'ai eu l'impression que le contenu était assez Rex finalement, ou un Rex en pleine inspiration, quelque chose comme ça.
Ou quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade.
Alors ça, je trouve ça sympa, mais ça fait un titre un peu trop long.
D'accord, je te laisserai voir.
Ok, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose ?
Ouais, il y a une question, mais alors c'est des questions à laquelle j'ai pas de réponse.
Ok, c'est embêtant.
Non, c'est des questions sur LinkedIn qui m'ont fait un peu marrer. Il y avait un débat tout à l'heure pour ou contre le badge Open to Work pour un CTO. Parce qu'il y a Open to Work, c'est quand tu es disponible.
Non, ouais.
Non. Il y en a qui disent que en fait, ça fait un peu needy, un peu désespéré, et qui retournent même le badge et qui disent en fait, quand tu cherches, il ne faut pas le mettre. Quand tu as trouvé, il faut le mettre pour avoir plus de business. Alors, c'est un vrai sujet parce que moi, je pense qu'il faut être authentique, donc il faut mettre le badge, mais il faut quand même prévoir comment c'est perçu. Et ce serait vraiment dommage que ce soit perçu comme étant désespéré, surtout si je le garde 5 mois. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le garder et je vais faire un post pour préciser en fait pourquoi je le garde.
Donc toi, tu as le badge Open to Work.
J'ai le badge Open to Work. Je pense que je vais le garder, mais je pense que c'est important d'expliquer, en fait.
Pourquoi on se met en recherche ?
Pourquoi on est en recherche depuis 3 mois, 4 mois ? Tout à fait, ouais.
Ok. Et
il y a une autre question.
Et un élément de réponse, c'est que ça peut aussi dépendre du contexte. Hein. C'est-à-dire que par rapport à la notion de needy, pas needy, tout ça... Tu te places dans un contexte marché pénurique, le open to work, il est assailli, alors que dans un contexte détendu, le open to work est considéré comme
Nidhi, cool. Je pense que tu posais la question il y a 6 mois, tu n'avais pas les mêmes réponses statistiquement qu'aujourd'hui, par exemple.
Ouais, j'y avais pas pensé, ouais. Très juste.
Ça donne pas de réponse sur ce qu'il faut faire.
Une autre question que je me pose souvent, c'est est-ce que la stack tech, elle est importante ou pas quand tu es CTO ?
Je m'explique. Et donc du coup, tu te la poses pour... Pour le prochain challenge, prochain taf.
Est-ce que j'impose une stack tech ou est-ce que je m'adapte à la stack tech de la boîte dans laquelle je vais? Normalement, je pense que le CTO, il doit être agnostique, il doit tout prendre. Il est là pour résoudre des problèmes. Le langage, PHP, machin, c'est juste un moyen de résoudre des problèmes. Mais il y a quand même un attachement qui se crée autour de techniques. GCP, c'est pas AWS, par exemple. Si tu connais bien AWS, ça te fait quand même un petit déchirement. Quand tu dois passer à GCP, tu dois tout réapprendre. Mais c'est aussi ton rôle, si GCP est mieux placé, d'utiliser GCP. Donc ça, c'est un vrai sujet et que je n'ai pas encore tranché.
Ça orientera ton choix, peut-être. Du coup, il y a certaines opportunités qui te paraîtront moins sexy de par le contexte
pas,
technique.
Je pense que je ne me fermerai pas de porte pour le contexte technique, mais effectivement, ça pourrait rendre certaines stacks plus sexy que d'autres.
Ok. Eh bien, écoute, ça marche. Je crois qu'on a fait à peu près le tour.
Ouais, carrément.
Eh bien, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast et d'avoir été... d'avoir livré le Rex de tes expériences avec... sans filtre, quoi. Les succès, les gadins, les erreurs, les apprentissages. Il y avait un petit peu de tout et je pense que on peut chacun s'y retrouver dans 2-3 trucs, quoi. Merci beaucoup.
Cool. Merci à toi.
À très bientôt.
À bientôt.
L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics, un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.